OK, c'est parce qu'on va aller étudier le chapitre 32 de la Genèse, les versets 24 à 32. Genèse, chapitre 32, versets 24 à la fin. 32, 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors, tu voulais vous asseoir. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui La lutte avec Dieu. Le grand apprentissage pour Jacob. Autrement dit, la lutte avec Dieu, on va voir là-dedans qu'il y a l'idée de la prière, qu'il s'apprêtait à rencontrer son frère, Ésaü était mort de peur de le rencontrer. Et là, c'était la nuit qui précédait que, fort probablement, le lendemain, il rencontrerait. Alors, il lutte avec un homme, mais on va voir tout le symbolisme qu'il y a à l'intérieur de ça et pourquoi le Seigneur nous fait voir qu'un de ses élus, avant de vivre une grave difficulté, rencontrer son frère, qui était en colère après lui au point de vouloir le tuer, il le rencontre avec lui. Pourquoi il lutte avec lui? Pourquoi qu'au matin, il refuse de lui donner son nom? Pourquoi il demande son nom à Jacob? Et etc. Toutes les idées qui sont à l'intérieur de ces 9 versets-là, il y a tellement de matériel, du stock là-dedans, dans ce chapitre-là. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être 3 grandes idées. Je l'appelle le grand apprentissage. Autrement dit, la lutte avec Dieu. La lutte avec Dieu, ça représente notre prière. La prière qu'on fait avec Dieu, qui se fait d'une manière fervente, et vous remarquerez aussi qu'il se fait d'une manière persévérante, durant toute une nuit. J'ai rarement compris toute une nuit. Hein? Vous avez remarqué ça. Alors, le grand apprentissage, premièrement, le verset 24 va nous montrer la nécessité de cet apprentissage-là, la lutte avec Dieu. Et le verset 25 à 30 va nous montrer la nature. Qu'est-ce que c'est que ce grand apprentissage? Qu'est-ce qu'on se doit d'apprendre si on veut lutter avec Dieu et être comme Jacob, être vainqueur? Parce qu'on voit qu'à la fin, Jacob est vainqueur et il le bénit. Donc, versets 25 à 30, on va regarder la nature de ce grand apprentissage. Et les versets 31 à 32, on va voir le grand apprentissage, sa permanence. Autrement dit, ce n'est pas juste le fait que c'est arrivé cette nuit-là, à cause du fait qu'il lui dit que les enfants d'Israël ne mangeront pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Ça vient nous dire que le peuple d'Israël, ou qui retiennent la leçon morale, la leçon spirituelle qui est annoncée dans ce passage-là. Souvent, on lit des passages et tout ce qu'on voit, OK, le gars, il a la hanche a été défaite. On ne regarde pas le côté leçon spirituelle qui est à l'intérieur de ça. Comme je vous ai dit dans les leçons précédentes, il ne faut pas l'oublier jusqu'à temps que l'histoire de Jacob soit terminée. Parce qu'après Jacob, ça va être Joseph, on le sait. Mais aller jusqu'au, je pense, c'est au chapitre 36 ou 37, là. Je pense que c'est 36. En tout cas, de toute façon, c'est juste pour dire que Dieu, dans Genèse 28, a fait des promesses à Jacob. Et ces promesses-là, si on lit à partir du chapitre 28, aller jusqu'à la fin où on parle de Jacob, on voit l'accomplissement de ce que Dieu a promis à Jacob. Et il y avait plusieurs choses. On les relit, Genèse 28, versets 13 à 15. Alors, c'est le passage où on voit que Jacob a eu un rêve. Il y avait une échelle qui était entre le ciel et la terre. Il y a des anges qui voyaient monter et descendre dessus. C'est ce passage-là. Alors, ça dit, « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, parlant de l'échelle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité, et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Autrement dit, il est en train de parler de l'alliance. Il est en train de parler de l'engagement qu'il y a eu entre les trois personnes de la Trinité pour dire qu'éventuellement Christ viendrait et que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Il est en train de lui rappeler ça. La promesse que j'ai faite depuis Genèse 3:15, on lit, mais on oublie ce que le Seigneur a dit avant. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il l'a dit depuis Genèse 3:15, juste après la chute, il a dit qu'il enverrait un Messie. Et tout ce qu'on est en train de voir, là, c'est une étape, un chaînon de l'accomplissement. On s'en va vers là. Tout l'Ancien Testament est, dans le fond, l'accomplissement de ce qui s'est passé au début, où il a dit qu'il enverrait le Messie. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, le Messie, il arrive. Donc, il s'est passé beaucoup de temps, là. Toute l'histoire de l'Ancien Testament a pour but de nous montrer comment Dieu a procédé pour envoyer le Messie et toutes les difficultés que le malin a semées, toutes les difficultés, les empêchements qu'il a essayé d'empêcher que le Messie arrive. On sait qu'il n'y a rien pour se mettre devant Dieu. Et ce qui est important pour réaliser ce qu'on est en train de lire aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La première partie, c'était l'alliance, donc le côté collectif de la bénédiction. Les hommes de la terre de toutes les époques, de tous les temps. Mais dans le verset 15, il lui fait une promesse personnelle. C'est un peu comme si le Seigneur ferait une promesse à toute l'Église ce matin, là. Puis après ça, il se retournerait de bord, puis il nous prendrait individu par individu, puis il dirait, voici la promesse à toi personnellement. Alors dans le verset 15, il dit, et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Alors, quelles sont les choses qu'il est en train de nous dire dans les promesses personnelles? La présence divine, et voici, je suis avec toi. La protection divine, et je te garderai partout où tu iras. La direction divine, je te ramènerai dans ce pays. Ensuite, on a la soutenance divine, car je ne t'abandonnerai pas. Il va te soutenir durant tout le temps, comme un peu il fait avec nous. Et la fidélité divine, que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Et on a vu, dans les semaines précédentes aussi, que Galates 3:16 nous disait que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. On a de la misère, dès qu'on a saisi comment le Nouveau Testament interprète ce passage-là, ça nous ouvre les horizons, ça nous ouvre la compréhension. Or, les promesses de l'Alliance ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, « et à ta postérité qui est Christ. » Alors, c'est le Nouveau Testament qui vient nous interpréter les promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa postérité. Et il vient nous préciser, le Nouveau Testament vient nous préciser qui était la postérité d'Abraham. C'était Christ. Christ et ceux qui sont en lui, placés par Dieu lui-même, en Christ, dans toute éternité, et qui viendra au salut dans le temps, dans l'espace, toutes ces années-là. Alors, certains enseignements de l'Éternel, on le sait, sont essentiels et d'une importance absolue. L'enseignement de ce matin, c'en est un enseignement essentiel. Essentiel, je veux dire, on ne peut pas s'en passer. Hein. C'est comme manger. Hein. On ne peut pas s'empêcher de manger, c'est essentiel. Donc, et c'est un c'est d'une importance absolue et c'est un point tournant dans la vie de Jacob. Quand on regarde les personnages de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Dieu a des choses à nous enseigner en lisant leur vie, en regardant ce que Dieu a fait dans leur vie, puis quelles sont les leçons qui ont montré, que le Seigneur a montré à... On sait que Jacob, il avait un problème majeur, hein? C'était quoi son problème? Un trompeur, un joueur de tour. Il cherchait à s'approprier des bénédictions par des moyens charnels, et ça a pris 20 ans au Seigneur, avec son beau-père Laban, qui a trouvé chaussure à son pied, où Laban l'a mis, autrement dit, il a fait comprendre que, écoute, jeune homme, il n'y a pas rien que toi qui es ton père. Moi aussi, je suis ton père, puis je suis encore meilleur que toi. Alors, Dieu a travaillé le caractère de Jacob pendant 20 ans. La première chose qu'il l'a trompé, vous vous souvenez certainement, avec sa femme. Il aimait Rachel, et son beau-père, il y a joué un tour, il y a passé la plus vieille Léa. Et tout l'ensemble des choses qu'il a vécu durant ces 20 ans-là. Mais là, il semble qu'il y avait encore des choses qu'il n'avait pas compris encore. Parce que là, Dieu lui avait dit, « Je vais être avec toi, je vais t'accompagner, je ne t'abandonnerai pas, que j'accomplis tout ce que je t'ai dit. » Et là, il s'en va pour rencontrer son frère, parce que son frère s'en vient. Il l'a envoyé dire, on l'a envoyé la semaine passée, il a envoyé du monde dire, à Ésaü, je t'envoie 600, que, il me semble que c'était 680, je me souviens bien, les animaux pour calmer son frère. Alors, il ne fait pas confiance à Dieu tant que ça. Là, ça nous montre une chose, c'est que même si Dieu nous apprend plein de choses dans notre vie, on arrive à un point où que des fois, on a à mettre en pratique ce qu'on a appris. Et là, on voit que la confiance en Dieu est plus ou moins boiteuse. Il a peur de son frère. Et là, il dit des mots, il l'appelle Seigneur, et il est prêt à se prosterner devant lui. Et on voit que là, il est dominé par la peur. Est-ce qu'on peut s'identifier avec ça, nous autres, la peur? On a peur. Pourtant, les promesses que Dieu fait à Jacob, là, il nous les fait à nous aussi. Pas juste dans ce passage-là, mais partout dans la Bible, le Seigneur nous fait les mêmes promesses. Pourquoi on a peur? C'est la chair. La chair, elle revient toujours à la peur, puis elle voudrait que les choses soient réglées à sa manière. Alors, c'est important le grand apprentissage, sa nécessité. Autrement dit, c'était nécessaire que le Seigneur lui enseigne les leçons spirituelles qu'il va apprendre dans ce passage-là. Genèse 32, verset 24. Or, Jacob demeura seul. À un moment donné, il a dû mettre ses épouses, puis là, il était tout seul avec le Seigneur. Mais lui, il ne savait pas que l'homme, c'était le Seigneur. Il ne savait pas que c'était une théophanie. Il ne savait pas que c'était probablement Christ incarné, qui est sous une forme d'homme, qui luttait avec lui. Alors, or, Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Même toi, je ne sais pas si... Tu sais, la lutte olympique, vous savez comment c'est que c'est, hein? Tu te pognes à brasse-corps l'un par l'autre, puis tu essaies de te faire renverser l'autre. Là. Toute une nuit, et quand tu arrives au matin, tu dois avoir mal aux muscles un peu. Là. Toute la nuit, là, et c'est long. Là. Toute une nuit, lutter avec un homme. C'est ce que ça dit. Or, Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du matin. La Bible ne nous dit pas d'où il venait, cet homme-là. C'était pourquoi il faisait ça. Il nous dit qu'il y a eu une lutte. Tout ce qu'on sait. Alors, cette nuit d'insomnie-là va revêtir pour Jacob un caractère mystérieux, un caractère fascinant et rempli d'enseignements. On va les voir au cours des prochaines minutes. Alors, l'assaillant, celui qui attaque Jacob, il va porter tour à tour plusieurs identités. Là, on l'appelle un homme. Dans un autre passage, on parle d'un ange. Et enfin, lui, quand on est rendu au verset 31-32, lorsqu'il dit « J'ai vu Dieu face à face, Péniel », quand il parle de Péniel, donc il est en train de réaliser que l'homme avec qui il luttait, il l'a d'abord perçu comme un homme, Il y a d'autres passages des Écritures qui disent que c'était l'ange de l'Éternel. Et à la fin, lui, il va reconnaître que c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, une théophanie, donc l'apparition de Dieu dans une chair d'homme, un peu comme Jésus-Christ était Dieu dans une chair d'homme, l'homme qui a lutté avec toute la nuit. Pensez-vous que l'homme qui a lutté avec Jacob, s'il était l'Éternel lui-même qui n'aurait pas pu écraser dans sa lutte, l'écraser comme un poux? Pourquoi il a permis que il laisse forcer du nez un peu comme ça, là? Pas parce qu'il n'était pas capable de le vaincre, ça c'est sûr et certain. Dans quel passage, dans les Écritures, c'est un tout. Hein. Puis des fois, on oublie, on l'a peut-être déjà lu, mais on l'oublie. Dans Osée, au chapitre 3, et versets 3 à 6, il nous parle de ce passage-là. Alors ça dit, « L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il punira Jacob à cause de ses voies. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, il supplanta son frère. » Je vous venais de ça, il l'a pris par le talon. « Et dans sa force, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange. » Dans Ésaïe, pas dans Ésaïe, mais dans Osée, on parle qu'il ne luttait pas qu'un homme, qu'il luttait qu'un ange. Donc, l'identité du personnage va changer. Il va d'abord le voir comme un homme, ensuite il va le voir comme un ange. Ensuite, à la fin, quand il va dire « J'ai vu Dieu face à face ». Donc, il va se rendre compte que ce personnage-là était un personnage très particulier. Il dit « Il lutta avec l'ange et il fut le plus fort. Il pleura et demanda grâce. » D'après vous, ce qui se passait, là. C'est comme une prière. La lutte, c'était la prière avec Dieu. Il savait qu'il était pour aller rencontrer son frère. Il était mort de peur, comme on dit. Et il a demandé grâce. Demander grâce, ça veut dire « Accorde-moi une faveur que je ne mérite pas. » Et il lui demanda grâce. À Bethel, il le trouva. Et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Alors, le Seigneur choisit le moment de l'apprentissage. Autrement dit, il le choisit, l'apprentissage se fait dans la solitude. Vous remarquez que c'est souvent que lorsqu'on est dans la solitude qu'on prie le plus souvent, le plus intelligemment, le plus sincèrement. Moi, les moments où je prie le plus, là, vraiment sincèrement, ça sort du cœur. C'est pas de prière mécanique qu'on dit, un petit peu comme... une prière qu'on a appris par cœur, c'est pas ça. Souvent, c'est la nuit. Tu dors pas. Là, Dieu devient un esprit, et là, tu pries. Puis là, on dirait que ta prière, là, vraiment, tu parles à Dieu. Parce que des fois, dans nos prières, il faut se l'avouer, là, des fois, on prie, mais on parle pas à Dieu, on dirait. On dirait qu'on dit des paroles mécaniques. Mais quand on parle avec notre cœur, c'est là que le Seigneur nous écoute. Dans le psaume chapitre 4, verset 5, ça dit « Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche et gardez le silence. » C'est vrai que quand on prie, souvent qu'on a une insomnie, ou bien non, quand c'est pas qu'une insomnie, c'est lorsqu'on s'apprête à rencontrer une difficulté qui nous semble insurmontable. Comme lui, il s'apprête à rencontrer son frère. Il s'attend qu'il va se faire tuer parce qu'il s'en vient pour le rencontrer avec 400 hommes. Il est mort de peur. On va remarquer que c'est là qu'on prie le plus. C'est là qu'on prie avec le plus de ferveur. Le psaume 63, versets 7 et 8, il dit « Quand je me souviens de toi sur mon lit et que je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu as été mon secours, aussi, je me réjouirai sous l'ombre de tes ailes. » Le meilleur exemple pour apprendre à prier, c'est qui? Jésus-Christ. Luc 6, verset 12. « En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. » À un moment donné, il y a plusieurs années, bien des années, j'étais à Sherbrooke, puis on avait commencé ça, on était une petite église maison. Puis on avait décidé de prendre ce verset-là comme un modèle et de commencer à se réunir, une gang de chrétiens ensemble, et de prier toute la nuit. C'était drôle parce que on commençait à prier, disons, on commençait à, je vois, 10 heures, 11 heures. Et là, disons, on est 8. Là. Fait que là, il y en a un qui prie 15-20 minutes, un autre qui prie 15-20 minutes. Donc, on en entend un. Priez une nuit de temps. Il faut le faire. Asseyez-le une bonne fois. Même si vous êtes en groupe, on dirait qu'on a tendance à décrocher. On a de la misère à rester accroché pendant une heure de temps. Pourtant, le Seigneur, il nous donne l'exemple. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et n'avais-tu des requêtes? Alors, on se doit de remarquer, quand on lit le passage ici, que la lutte avec Jacob est une initiative divine. C'est pas lui qui décide de lutter avec le gars. C'est le gars qui vient le voir et qui décide de lutter avec lui. Le combat, il s'initie, autrement dit, il commence lorsque la nuit est sombre. C'est souvent là qu'on commence nos combats, quand la nuit... Pas nécessairement la nuit physique, mais c'est souvent dans nos moments où c'est sombre dans notre vie. On voit tout en noir, comme on dit. Là, on est porté à se mettre à genoux. Là, on est porté à broyer devant Dieu et à lui demander toutes sortes de choses. Pourtant, ça devrait être une activité quotidienne de tout moment. Alors que Jacob a épuisé tous ses trucs, ça, c'est vraiment à remarquer, hein. Juste avant de le rencontrer, il a tout épuisé ses trucs. Je vais lui envoyer des animaux, je vais lui faire des compliments. Alors que tout finit ça, là, il n'a plus de moyens. Le seul moyen, c'est de prier Dieu. Il l'utilise en dernier. Selon vous, y a-t-il une erreur? Il l'utilise en dernier alors qu'il aurait dû l'utiliser en premier. Alors, il a envoyé des cadeaux, il a envoyé des éclaireurs, il a envoyé des compliments. Et après que tout ça est fini, là, Dieu prend l'initiative de venir le rencontrer et de lutter avec lui. Et comme ça dit dans Osée, il pleura et il demanda grâce. Voyez-vous, un autre passage des Écritures vient nous faire comprendre le sens du passage qu'on est en train de lire. Alors, au moment qu'il est seul, un homme vient l'attaquer. Je sais pas, la nuit, là, quand quelqu'un est attaqué, je sais pas, ça a un effet sur nous autres. Là. Surtout la nuit, on ne voit pas bien clair. Il est attaqué, alors tu es pris pour te défendre. Et le combat se poursuit jusqu'à l'aube. Autrement dit, c'était Dieu, Jésus, probablement incarné. La plupart des auteurs pensent que c'est une théophanie de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ apparaissant sous une forme humaine, qui avait des choses à enseigner à son serviteur. Et il le laisse lutter avec lui. Alors, le combat se poursuit jusqu'à l'aube. Et j'imagine un genre de combat, de lutte, comment ils appellent ça, la lutte grecque. Là. Tu te pognes comme un bras-corps, puis t'essaies de te faire tomber l'un l'autre, qui dure toute une nuit, et devait être brûlé au matin. Alors, à mesure que l'événement va se dérouler, Jacob va voir l'identité du monsieur qui va changer. Il va d'abord voir un homme. Ensuite, dans Osée, on a dit qu'il l'identifie comme étant l'ange de l'Éternel. Et ensuite, lui, vers la fin, il dit « J'ai vu Dieu face à face, Péniel. » Donc, c'est comme, à un moment donné, c'est comme, il a allumé. Peut-être que c'est pas un homme ordinaire, ça, cet homme-là. Alors, le passage d'Osée 12 nous précise aussi que Jacob lutta avec l'ange. La plupart des commentateurs voient dans le personnage une théophanie ou une christophanie. Théo, ça veut dire Dieu. Phanie, ça veut dire apparition. Fait que si c'est théophanie, c'est Dieu apparaissant sous une forme d'homme, ou christophanie, c'est Christ apparaissant sous une forme d'homme. Alors, Jacob a lutté avec quelqu'un qui avait une apparence humaine, mais qui était en fait Dieu. Un peu comme le Nouveau Testament. Quand on lit le Nouveau Testament, Jésus a été élevé jusqu'à 12 ans, bon, toute l'histoire qu'il nous raconte. Et À un moment donné, Jésus il a demandé à Pierre, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre a eu un éclair de génie. Tu penses qu'il était plus intelligent que les autres? La Bible nous dit que c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui t'a révélé ça, Pierre. Il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre venait de prendre conscience que le personnage qu'il avait devant lui, qui avait l'air d'un homme, n'était pas seulement un homme, mais que c'était un homme. Dieu était en Jésus. Donc, c'était pas un homme ordinaire, c'était l'homme-Dieu. Imaginez là, quelqu'un qui prend conscience de ça, il y a un homme devant lui, puis il s'imagine, il dit, oups, je pense que c'est pas vrai, c'est un homme, ça. Il y a d'autres choses derrière ça. Puis tout ce que le Jésus lui a fait voir au cours de sa vie, des miracles, calmer les tempêtes, chasser des démons, guérir des paralytiques, etc., etc. À un moment donné, c'est anormal un peu qu'il allume, hein, tu sais, comme on dit. Allume, comme on dit. Alors, Jacob a lutté avec quelqu'un qui avait une apparence humaine, mais qui en fait était Dieu lui-même, ou une christophanie. Alors, soit Christ lui-même apparaissant sous une forme humaine avant son incarnation. Verset 25 à 30, le grand apprentissage sa nature. Qu'est-ce que le Christ incarné voulait montrer à Jacob? Alors, les élus doivent apprendre des choses sur Dieu. Alors, dans le verset 25, ça dit, quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha la voiture de sa hanche. Il y a une notion importante ici. L'emboîture de la hanche, j'ai regardé ça un petit peu sur Internet. Semblait-il que le nerf sciatique prend sa source dans la hanche et, à quelque part, ce nerf sciatique-là, il descend tout le long de la jambe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le problème du nerf sciatique, mais ça m'est déjà arrivé. Je peux vous dire que c'est douloureux, pas à peu près. Là. Et pourquoi le Seigneur a. Premièrement, ça prenait quelqu'un qui était divin pour être capable de juste par un toucher, de démancher le muscle, comme on dit. Autrement dit, le muscle, c'est vraiment le symbole de la marche chrétienne. À partir du moment où Dieu, symboliquement, enlève ton muscle sciatique, c'est qu'à ce moment-là, tu te mets à marcher croche. Autrement dit, Dieu veut lui montrer que c'est lui qui mène. Et que ta marche chrétienne est boiteuse. Il va devenir avec une marche boiteuse. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que par lui-même, il n'est pas capable de faire vraiment grand-chose. Il faut qu'il apprenne que Dieu, c'est Dieu qui mène, c'est Dieu qui l'aime. Il dit, la boiture de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit, « Laisse-moi aller car l'aurore s'est levée. Pourquoi, d'après vous, Dieu dit... » ou la théophanie, pourquoi il dit « Laisse-moi aller ». Il veut s'en aller. Il n'avait pas besoin de demander la permission pour s'en aller. Il dit « Car l'aurore s'est levée ». C'est comme il semble que la levée du jour fasse en sorte que l'ange voulait se dégager. Et il ne nous donne pas nécessairement les raisons. Après ça, Jacob dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Donc, il est en train de prendre conscience que le personnage que devant lui, c'est pas juste un homme. Parce qu'il demande une bénédiction. Il est en train de prendre conscience que le personnage qui est devant lui, c'est Dieu. Et remarquez bien qu'est-ce que le Seigneur fait avant de lui donner la bénédiction. Alors, l'homme, il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Autrement dit, le Seigneur, en demandant à Jacob son nom, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut lui faire prendre conscience de son côté pécheur. Jacob veut dire supplanteur, trompeur. Il est en train de dire, c'est comme s'il aurait dit, c'est quoi ton identité, toi, petit monsieur? Pour qu'il se rende compte qu'il est un pécheur. Parce qu'il dit, mon nom c'est Jacob, mais les Écritures nous disent que le nom de Jacob veut dire supplanteur. Alors il dit, alors l'homme, la théophanie dit, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom, ça veut dire ton identité, qui tu es. Mais tu ne seras plus celui-là, mais tu vas être Israël. Dieu, tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. C'est un peu comme si nous, on nous disait, tu étais un pécheur, mais maintenant, tu n'es plus seulement un pécheur, tu es un pécheur régénéré qui a de la puissance auprès de Dieu. C'est un peu ça qu'il est en train de lui dire. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob. C'est Dieu qui change son nom. Et c'est d'une importance extrême dans les Écritures de saisir que le nom, à cette époque-là, avait une signification qu'on n'a plus aujourd'hui. Si vous prenez dans les dictionnaires de prénoms, votre prénom a un certain sens. Mais à l'époque, le nom qu'on donnait à une personne correspondait à quelque chose de plus profond qu'un nom choisi au hasard. Beaucoup plus profond. Ça avait une signification que ça identifiait qui tu étais dans la réalité. Et il dit, mais Israël, qui lutte avec Dieu. Autrement dit, nous aussi, on n'est plus juste un pécheur, mais on est une personne qui est capable de prier Dieu. Il dit, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Autrement dit, tu as été vainqueur. Dieu se laisse fléchir. Dieu, dans sa toute grandeur, dans sa toute puissance, dans qui il est, dans sa perfection, se laisse fléchir, autrement dit, par nous. Nous aussi, on a des côtés comme on est Jacob. On a un côté, on est capable de faire fléchir Dieu parce qu'il veut bien se laisser fléchir. Personne ne pourra faire fléchir Dieu. Personne. Mais par nous, il veut bien se laisser fléchir à cause de Christ. Il dit, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Et là, il se pose quelque chose d'intéressant aussi. Jacob se retourne de bord et il dit, « Et toi, quel est ton nom? » Mais là, il s'adressait à Dieu, à l'homme, à Dieu incarné dans une chair d'homme. Et il lui demande, Jacob l'interrogea et dit, « Apprends-moi ton nom, je te prie. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Parce que connaître le nom de quelqu'un à cette époque-là, c'était avoir une prise sur lui. Et connaître le nom de Dieu, c'est aussi avoir une prise sur lui. Et Dieu ne lui répond pas ici, il ne lui répond pas, parce qu'il dit, quel est ton nom? Dieu ne dit pas, ben mon nom c'est Jéhovah, ou mon nom c'est El, ou Yah, ou Yahweh, ou n'importe quoi. Il ne répond pas. Il fait juste dire, pourquoi demandes-tu mon nom? Et remarquez que c'est là qu'il le bénit. Et il le bénit là. Alors là, ça a dû faire un déclic dans la tête de Jacob pour se rendre compte que la rencontre avec son frère n'était pas pour être si grave que ça, que Dieu était avec lui et qu'il était pour être vainqueur. S'il avait réussi à se battre avec une théophanie, puis il a vaincu parce que Dieu a bien voulu se laisser vaincre par lui, alors le fait de rencontrer son frère, ça ne l'énerve plus, comme on dit. Et verset 30, et c'est là qu'on se rend compte qu'il a perçu qui ce personnage-là était, parce qu'il dit, « Et Jacob nomma le lieu Péniel, qui veut dire face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. » Un homme, un ange, Dieu. Voyez-vous, la perception a changé. Il a vu qui était. Alors, les choses qui se devaient d'apprendre dans ces versets 25 à 30-là. Le premier, c'est que l'Éternel domine sur la chair. Quand il prend la hanche du monsieur, il fait juste y toucher, puis que le muscle se démet, ça veut dire qu'il sort de... Il fonctionne plus, là. Il se met à boiter. Qu'est-ce que ça veut démontrer? C'est que Dieu est capable de travailler sur ta marche chrétienne. Il domine sur ta chair. Alors, on a vu que Jacob, malgré que Dieu, la théophanie, a démis son muscle, il était courageux parce qu'il continuait à se battre pareil. Même si Dieu te montre qu'il domine sur la chair, tu continues à intercéder auprès de Dieu pour obtenir des choses auprès de lui. Toute la nuit, j'imagine que si c'est le muscle sciatique, comme la plupart des gens pensent, les commentateurs, continue à lutter alors que ton muscle sciatique ne va pas bien, ça doit faire boubou. Pourquoi il continue? Parce qu'il veut obtenir quelque chose de Dieu. Ouais. Quel est ton nom? Il veut obtenir, comme ça dit dans Osée, il a pleuré puis il a voulu obtenir grâce. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? Dieu a aussi dans notre propre vie, il domine sur notre chair et il peut rendre notre marche charnelle boiteuse. Il est capable d'agir dessus. Alors la force de continuer à se battre malgré son infirmité lui vient du fait que Dieu lui donne la force. Alors, sans aucun doute, Jacob aurait été littéralement écrasé si l'homme ou l'ange aurait eu utilisé toute sa force, bien sûr. Alors, les croyants ne peuvent obtenir des victoires dans leur plaidoirie avec Dieu que dans la mesure où c'est Dieu lui-même qui accorde à l'élu la force d'en haut. Romains 8, 26. Il va venir nous dire la vérité, mais dans le Nouveau Testament. Mm-hmm. Et même aussi, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, quand on prie, on sait même pas quoi demander. On demande bien souvent des choses qu'on ne devrait pas demander. Ça nous dit, et même aussi l'Esprit, donc le Saint-Esprit, nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même, autrement dit, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, intercède pour toi. C'est comme si le Saint-Esprit disait à Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il veut dire, là, ce qu'il veut vraiment, c'est ça. Il se fait comme... On ne sait pas quoi demander à Dieu, mais l'Esprit, lui, sait quoi demander. Et il dit qu'il intercède lui-même pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Autrement dit, un soupir, des fois, c'est comme si le Saint-Esprit disait, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il demande. Il va te le dire, moi, ce qu'il veut. Alors, seulement le Seigneur, dans son omniscience et son omnipotence, pouvait toucher l'emboîture de la hanche de Jacob et la démettre. Alors, bien sûr, Jacob fait preuve d'un grand courage, d'une grande détermination en continuant le combat. Deuxième chose que lui montre dans le verset 26, c'est que l'Éternel seul est la source de toute bénédiction. Et cet homme lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ça vous fait-tu penser à des passages du Nouveau Testament où le Seigneur nous dit d'être persévérant dans notre prière? Mm-hmm. Tu sais, comme la veuve opportune, tu sais, viens, lâche pas, demande encore. Tu sais, des fois, on demande pour le salut de nos enfants, par exemple. On demande pour des choses qui nous semblent impossibles. Puis un moment donné, après un certain temps, on est tous pareils, après qu'on a fait un certain temps, qu'on voit qu'on n'a pas la réponse, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Seigneur, c'est pour ça qu'il veut. Il veut que tu persévères. Il aime ça quand tu demandes encore plus de ferveur. Il aime ça. Alors, s'il aime ça, allons-y. Demandons, intercédons. Et ayons plus de ferveur, ayons plus de détermination, ayons plus de persévérance. Il a lutté toute la nuit. Alors nous, quand on a quelque chose de vraiment important, salut nos enfants, toutes sortes d'autres choses. Alors, il dit, je te laissais pas aller tant que tu m'auras pas donné la bénédiction. C'est un peu comme si nous autres, on dirait à Dieu, ça, là, le salut d'un tel, j'y tiens, je vais t'achaler jusqu'à temps que tu me l'accordes. C'est un peu ça, là, qui se passe. Puis, dans Jacques, chapitre 5, verset 16, peut-être pas la première fois qu'on l'a lu, le verset, on l'a lu maintes et maintes fois. La prière fervente. Qu'est-ce que c'est une prière fervente? Prière fervente, c'est une prière qu'on dit, « Oh, Seigneur, voudrais-tu sauver mon enfant? » Prière fervente, c'est bien plus que ça, là. C'est une prière que tu brailles. Seigneur, t'en prie. Fervent, c'est fervent, là. C'est un peu comme tes enfants, là, qui veulent aller, je sais pas, mais ils veulent aller au cinéma, là, puis... Mais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il était terrible avec ma mère, je la lâchais pas. La lâchais pas tant que j'avais pas obtenu ce que je voulais. Mais c'était fervent, là. Et si je voulais avoir un jacket avec des petites franges ici, là, j'achalais ma mère jusqu'à temps qu'elle m'en achète. Hein. C'est ça, la ferveur. T'achales la personne qui a l'autorité de te donner ce que tu demandes, jusqu'à temps qu'elle dit « OK, là, d'abord, moi, t'es acheté ton chandail avec des franges. » Un peu comme nous avec Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce qu'on est des justes?
Oui.
Est-ce que notre prière a une grande efficacité?
Oui.
Pourquoi se fait-il qu'on prie si peu? That is the question, comme ils disent en anglais. Troisième chose que je voulais y montrer dans le verset 27, que l'Éternel est le révélateur de notre corruption et de notre déchéance. Quand il lui, avant de le bénir, il lui demande son nom. Il y a une raison pour laquelle il lui demande son nom. Parce qu'en lui rappelant son nom, il lui rappelle la signification de son nom et il lui rappelle en réalité son caractère. Parce qu'il dit, et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob, je suis le supplanteur, je suis le trompeur. » C'est un peu comme si Dieu te demanderait à toi qui t'es, puis tu lui dirais, « Je suis un pécheur. » Avant de te bénir, c'est intéressant. Et autre chose qu'il lui montre, verset 28, la première partie du verset 28, que l'Éternel est souverain dans l'établissement de notre identité spirituelle. Lorsqu'il lui dit dans le verset 28a, alors il dit, autrement dit, après qu'il a eu reconnu qui il était dans sa nature, il lui dit, maintenant, ton nom ne sera plus trompeur, ne sera plus supplanteur. Ton nom va être maintenant Israël. Pourquoi le peuple d'Israël porte ce nom-là aujourd'hui? À cause de Jacob, il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Lorsque le Seigneur sauve une personne, il devient, cette personne-là, une nouvelle création ou une nouvelle créature. Le Seigneur va transformer le caractère de son élu. Il va sanctifier le caractère de son élu et il va le transformer. Je ne sais pas si vous n'avez eu des transformations de caractère depuis votre... Si vous n'avez pas eu, c'est pas normal. Ça serait supposé que vous n'ayez eu. Et ça se fait pas du jour au lendemain, puis ça se fait rarement d'une façon spectaculaire. Ça se fait petit morceau par petit morceau, ça se fait tranquillement. Parce que ça nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cinquième chose, ce qu'il lui montre, verset 28b, que l'Éternel est le révélateur aussi, non seulement de notre identité spirituelle. Tu étais un pécheur, tu étais un supplanteur, tu étais un trompeur. Maintenant, tu es celui qui vient, qui lutte avec Dieu et qui a la victoire. Maintenant, verset 28b, il lui dit, « Mais Israël, maintenant, sera ton nom. » Qui veut dire qu'il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Autrement dit, qu'est-ce que l'Éternel, quelle leçon que tu es en train de lui montrer? Que l'Éternel est le révélateur de notre dignité. Après que toi, tu as eu reconnu qui tu étais dans ton caractère de pécheur, maintenant, il te montre que tu es digne et tu es capable de vaincre même Dieu. On sait bien que ce n'est pas vraiment vaincre Dieu de façon absolue, là. Mais Dieu se laisse fléchir, Dieu se laisse t'accorde des choses à cause que tu es maintenant un de tes enfants. Donc, il est le révélateur de ta dignité. Je pense que ce qu'on va faire, on va arrêter là pour ce matin, mais